Jeune et centenaire, un nouveau titre publié par Jude Poirier aux éditions Trécaré. Jude Poirier, qui est professeur titulaire à l'Université McGill, directeur de la recherche sur le vieillissement, la cognition et la maladie d'Alzheimer du côté du Centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale Douglas. Jude Poirier, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous reparler aujourd'hui. Jeune et centenaire, et ça, vous le dites d'entrée de jeu dans votre livre, ça ne sera pas une des recettes miracles. Il n'y a pas de fruits miraculeux ou de super aliments pour contrer le vieillissement. Et d'ailleurs, votre bouquin est vraiment basé sur des recherches très étayées.
En fait, c'est ça. Depuis une vingtaine d'années que je donne des conférences grand public, surtout sur la maladie d'Alzheimer, mais aussi sur ce qu'on appelle le vieillissement en santé. Mm-hmm. Et j'ai toujours des questions à la fin sur tel extrait miraculeux de ginkgo, de ci, de ça, ou d'huile de patate, des machins comme ça. Et là, évidemment, j'essaie d'expliquer aux gens, il y a une différence entre évaluer de façon rigoureuse, critique, les qualités d'un aliment supposément bénéfique, selon les critères scientifiques ou tout simplement selon ce qu'on souhaiterait bien voir à la fin. Et c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce bouquin-là.
Oui. J'ai été surprise d'apprendre que, surprise, on le sait, la population est de plus en plus vieillissante, mais il y avait plus de centenaires ici au Québec et partout dans le monde que je le pensais. Quel est le lien ou l'impact de la science, des technologies dans cette quête ou, disons, ce chemin vers un vieillissement, une longévité toujours plus longue?
Bien, je pense qu'il faut comprendre que c'est un phénomène récent, mais qui va à une vitesse incroyable.
Oui.
On double le nombre de centenaires à toutes les 9 ans. Donc, vous faites un calcul. En mathématiques, on appelle ça une progression exponentielle. Donc, dans 100 ans, il va y en avoir beaucoup. Si on regarde tout simplement l'espérance de vie moyenne dans, disons, le monde occidental depuis les années 70, on ajoute systématiquement à toutes les 10 ans de 2 à 3 ans de longévité.
Mm-hmm.
Et ce, systématiquement depuis les années 70. Et selon les derniers chiffres que j'ai vus de l'Organisation mondiale de la santé, depuis les années 2000, on accélérait. Ce serait plus de l'ordre de 3 à 4 que de 2 à 3. Et il y a des pays comme l'Afrique où finalement, on a des efforts de sensibilisation, un déploiement de ce que j'appellerais la médecine minimaliste, là, des vaccins, certains antibiotiques. Et là, on parle de 5 ans d'augmentation de longévité à toutes les 10 ans pour certains pays d'Afrique. Donc, c'est vraiment un phénomène contemporain, mais avec lequel, évidemment, il va falloir qu'on apprenne à vivre.
Oui. Grâce à la science, grâce aux technologies, il y a toujours, bien sûr, la génétique qui pèse dans la balance.
Oui, ça, il faut le dire, il faut le répéter. Je pense que tout le monde a entendu, on sait bien dans cette famille-là, ils vivent longtemps. Il y a une histoire familiale de 90 ans, de 100 ans dans cette famille-là. On estime à peu près à 30% le poids génétique ou la contribution génétique au centenariat. Le reste, bien là, on va en revenir à des choses que les gens sont tannés d'entendre.
Oui.
L'alimentation, style de vie et l'exercice.
Voilà.
Ou disons, activité physique dans son sens le plus large.
C'est pas plus compliqué que ça. Toutefois, il y a quand même une nuance que l'on entend parler de plus en plus, notamment en lien avec l'alimentation. C'est l'apport calorique. Il me semble qu'avant, on n'entendait pas tant parler de ça et maintenant, de plus en plus, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? Oui, mais combien on met dans notre assiette a un lien sur la longévité?
Oui. En fait, les premiers travaux, ils sont pas récents. En 1920, un collègue américain qui décide, et je pense par un concours de circonstances, d'examiner ce qui arriverait à une population de gros rats dodus de laboratoire s'il soustrayait 40 à 50 % des calories que les animaux consomment à tous les jours, et ça, de la naissance jusqu'à la fin de leur vie. Et son but, lui, c'était de voir beaucoup plus l'impact de certaines maladies comme le diabète, qui est lié à l'obésité, évidemment, à la nourriture, puis des choses comme ça. Et ce qu'il fait, c'est qu'il s'est aperçu après 3 ans d'études suivies de plusieurs colonies, que quand on coupe les calories de 40 % chez nos gros rats de laboratoire, ils vivent 30 % plus longtemps. Chez l'humain, ce serait presque 25-30 ans de plus. Ce serait énorme si on arrivait à faire ça. Ils ont répété ça dans d'autres, avec d'autres animaux, dans d'autres situations. Il est devenu très, très clair que la façon dont on gère les calories, soit en les brûlant sous forme d'exercices de tout genre ou d'activités, appelons-les physiques quotidiennes, ou qu'on les mange et quelle qualité de calories on mange va avoir un impact, évidemment, pas sur une petite période de temps, mais sur une longue période de temps, sur nos chances ou nos risques de ne pas être centenaire.
Ouais. Saines habitudes de vie, comme vous le disiez, jus de poirier, des fois, on est un peu tanné d'entendre ça, alimentation, exercice. Mais il y a un autre aspect dans le vieillissement en santé, c'est notre personnalité ou la façon dont on entrevoit la vie.
Oui. Si vous me permettez, j'aimerais ça vous parler d'une magnifique étude qui a été menée pendant une vingtaine d'années en France où on a examiné des centenaires, un grand groupe de centenaires. Et ils ont fait ça de deux façons. Ils ont regardé d'une part, ils ont interviewé des centenaires puis leur ont demandé « Pourquoi pensez-vous? Comment êtes-vous arrivé centenaire? » Et là, ça devient amusant parce que vous avez 50 000 réponses différentes. Ouais. Pour un, c'était le verre de vin. Pour l'autre, c'était ne pas boire de vin. Mm-hmm. Pour le suivant, c'était une cuillerée de miel. Bref, on avait autant de réponses qu'on avait d'individus. Mais quand on a posé la question aux gens qui entourent les centenaires, donc les familles proches, des gens qui ont vécu avec des centenaires, souvent des frères, des sœurs plus jeunes, là, on voit apparaître vraiment des choses claires. Quand on parle personnalité, qu'est-ce qui ressort? C'est des gens qui sont d'une nature gaie, des gens optimistes, confiants en l'avenir. Ce sont aussi des gens sociables. Et ça, il y a de belles études scientifiques qui ont montré que la solitude, en fin de vie, est associée à une vie plus courte, donc une espérance de vie moins longue. Des gens qui ont donc confiance en l'avenir, des gens qui aiment la compagnie, et c'est des gens qui, littéralement, refusent de s'effacer de la société. Ils veulent participer. Puis en fait, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais fait une très belle table ronde avec une dizaine de centenaires à Radio-Canada. Et c'était drôle. C'était pas le chercheur que j'étais ou l'animateur qui avait été difficile à asseoir à la table. C'était de trouver les agendas de tout le monde. Ils étaient tous occupés, ces heures-là. Ça n'avait pas de bon sens.
Et vous le dites dans ce livre, je trouve important de le dire, de le redire, des gens qui sont restés le plus longtemps possible au sein de leur famille.
Et oui, et ça, c'est, je dirais, la grande caractéristique. Il y a des chercheurs qui ont regardé, vous savez, il y a des zones à travers le monde qu'on appelle les zones bleues, où il y a des augmentations, j'aimerais dire une prévalence beaucoup plus augmentée de centenaires que, disons, dans la moyenne ou dans la région ou une région du monde particulière. Il y a 5 régions où on a beaucoup de centenaires. Et la majorité, donc 4 sur 5, sont des îles. Et sur ces îles-là, évidemment, on a des gens qui font quoi? On a des gens qui ont tendance à manger des dérivés de la pêche. Donc, on mange du poisson, on mange des viandes blanches, on mange pas de viande rouge. Évidemment, comme c'est des îles, on se déplace généralement à pied. C'est plus facile, c'est moins compliqué. La voiture est tout à tout fin pratique, inutile. Donc, on bouge. Et on a aussi des gens qui, d'un point de vue fonctionnel, vieillissent entourés de leur famille. Et ça, c'est un trait de caractéristique, autant du côté d'Okinawa, du côté japonais, que du côté de la Grèce ou
de l'Italie. Voilà, et même en Californie. Quel est l'autre endroit qui nous manque?
Près du Costa Rica, une autre
voilà,
île
c'est ça.
Qui est près du Costa Rica. Et encore une fois, où c'est de tradition de vivre entouré de sa famille jusqu'à un très grand âge.
Oui. Jude Poirier, nos enfants vivront jusqu'à quel âge à peu près?
Bien, selon les études démographiques menées en 2015, il y aurait un enfant sur deux qui naissent ces jours-ci, qui deviendrait centenaire. Donc, ça veut dire que dans une centaine d'années, on aurait une espérance de vie moyenne de 92 ans. Donc, un grand groupe de centenaires et aussi des gens de moins de 92 ans pour avoir une moyenne de 92. Aujourd'hui, au Québec, on parle de 80. les femmes 82-83, les hommes autour de 78. Donc, une augmentation incroyable, à mon avis, de cette espérance de vie, mais aussi de nos fameux centenaires et quelques, ce qu'on appelle, super centenaires.
Donc, en haut de 110 ans, c'est
ça? En haut de 110 ans. Aujourd'hui, oui. Il y a une chance sur mille d'un centenaire de devenir un super centenaire. Donc, on voit que atteindre 100 ans, ça veut dire qu'il y a peu de chances d'atteindre le super centenariat, mais ça va être de plus en plus facile avec le temps.
Mais en même temps, à la fin de votre livre, vous soulevez quand même un bémol, à savoir, c'est bien de vieillir en santé, vieillir longtemps, là, sur une longévité intéressante, mais est-ce que notre société est prête à recevoir ces personnes centenaires? Est-ce que nos infrastructures sont prêtes à ça?
Exactement. D'une part, et il faudrait qu'on abandonne cette espèce de façon de voir le monde. Vous savez, la fameuse âge de retraite à 65 ans, elle a été mise en place tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y avait beaucoup de soldats, des hommes en majorité, revenaient de la guerre et il fallait leur trouver des emplois. Et on a créé ce concept de retraite à 65 ans, mais à l'époque, l'espérance de vie était de 63. Donc, le gouvernement s'attendait à payer un gros 2 ans de pension de vieillesse. Aujourd'hui, si on pense à 65 ans, mais avec une espérance de vie de 92, il est certain que le système est de santé et le système de soutien, dans le fond, de nos retraités sera incapable de survivre à ce genre de changement démographique.
Donc, c'est de revoir ces infrastructures, mais peut-être aussi notre regard sur les personnes âgées.
Effectivement. Et leur contribution. Moi, je suis à l'université. Vous savez, on ne peut pas nous forcer à la retraite. Et j'ai de nombreux collègues. La personne que j'admire probablement le plus à l'Université McGill, Mme Melner, enseigne aujourd'hui, fait de la recherche à 94 ans. Et elle est tout à fait bienvenue dans le département de neurosciences. C'est une pionnière de la mémoire dans la recherche internationale. Et quand vous lui parlez, elle a le feu sacré qu'elle avait, j'en suis certain, là, il y a 60 ans. Donc, pour nous, en tout cas, dans le niveau académique, on a ce luxe, cette possibilité-là. Mais mon doux, ça serait tellement agréable qu'on puisse savoir ça dans la société.
Oui. De toute façon, Jude Poirier, on ne veut pas que vous preniez votre retraite. On veut continuer à vous lire. Et ça a été un plaisir de le faire avec Jeunes et Centenaires chez Trécaré. Jude Poirier, je rappelle, vous êtes professeur titulaire à l'Université McGill et directeur de la recherche sur le vieillissement, la cognition et la maladie d'Alzheimer au Centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale Douglas et l'installation du CIUS Ouest de l'île de Montréal. Jude Poirier, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.